Monsieur Delby, Monsieur Delby, c'est par vous qu'ils seront sauvés. Monsieur Delby, Monsieur Delby, et nos paroisses et nos curés. Monsieur Stofflet, Monsieur Stofflet, par le sabre et le pistolet. Monsieur Stofflet, Monsieur Stofflet, nous allons délivrer Cholet. À vos préaux, Catelino, Catelino, nous ferons claquer nos sabots. Monsieur de Bonchamp, vous allez garder Saint-Florent. Monsieur de Bonchamp, nous sommes des soldats paysans. Monsieur Charette, avec nos fourches et nos serpettes. Monsieur Charette, venez marcher à notre tête. Monsieur Henri, nous défendons nos métairies. Monsieur Henri, avec nos cœurs et nos fusils. Monsieur Lescure, au nom de Dieu, on vous le jure. Monsieur Lescure, nous vous suivrons jusqu'à Saumur. Sur la Vérine, la Concordière n'est pas un nid. Sur la Vérine, sous toute la Vendée qui rugit.
Eh bien, vous venez d'entendre une musique extrêmement contemporaine qu'un de nos amis ici disait, mais c'est du rap. Bah, c'est une espèce de rap vendéen, en tout cas une espèce de chose très particulière. Et il s'agit encore, toujours, de Didier Barodelivien, que nous avions écouté il y a 15 jours, Serge, dans un air dont les paroles vous avaient plu, mais la musique un peu moins.
Mais moi, je me demande vraiment, Barodelivien, c'est un auteur-compositeur
très connu,
actuel, je me demande vraiment ce qu'il attend de ce genre de chanson. Parce que il faut quand même bien dire que dans la population jeune, aujourd'hui, il n'y en a pas un sur 12 000 qui est capable de comprendre un mot des paroles qui ont été dites dans cette chanson.
Le mieux, Serge.
Monsieur Delby, monsieur Lescure, ils ne savent absolument pas qui c'est. Hein.
Ben voilà, maintenant ils le savent parce qu'il y a un très beau CD qui vient de paraître.
Un quoi?
Un CD.
Un quoi?
C'est un
Pardon
petit disque.
Un compact disque.
Un quoi?
Non, mais un disque compact.
Ah, mais elle en est restée à l'époque du rouleau, là.
C'est bien, pour monter de temps en temps le
voilà,
phonographe.
Les félicitations du jury.
Elle en est restée à l'époque du rouleau, alors. Donc,
le disque compact.
Le CD.
Qui a été édité cette année. Vous vous souvenez qu'en 89, Didier Barodelivien avait commis une chanson qui s'appelait Vive le Roi, qu'on a écoutée il y a 15 jours, et que si vous le souhaitez, on pourra écouter sur ses ondes. Et là, cette année, il a fait un très bel album qui s'appelle Vendée 93, dont nous avons extrait ce morceau. Et la meilleure façon de savoir si Barodelivien est conscient de ce qu'il fait, etc., ce sera peut-être un jour de l'inviter sur cette radio, et j'espère bien qu'il nous fera un jour l'amitié d'y venir.
Alors, sans perdre de temps, je me tourne vers mademoiselle Souvanavong. Mademoiselle Souvanavong a écrit un livre qui s'appelle La jeune captive du Pathet Lao, et qui est son histoire. C'est paru dans la collection Les enfants du fleuve chez Fayard, éditeur. Et son histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une lycéenne de 15 ans, qui un beau jour a vu arriver dans son lycée, je crois, ou chez elle, je ne sais pas, elle va nous raconter ça, des militaires ou des policiers.
C'est qu'en 1975, au Laos, il y avait un changement de régime. Le Laos, c'était le royaume du Laos dans le temps, et depuis 1975, après l'arrivée des communistes, ils ont fait la révolution et ils ont obligé le roi de s'abdiquer. Après ce changement de régime, la gauche le Laos est contrôlé par le Pathet Lao, ou les communistes laotiens,
qui ont pris le pouvoir par la force.
Et le gouvernement de droite du Laos a été trompé par le gouvernement de gauche ou les communistes qui s'appellent le Pathet Lao. qui normalement qui devait respecter les
règles démocratiques.
Les règles démocratiques.
C'est toujours la même chose, en fait. Bon, c'est le système qu'on connaît dans le monde entier depuis 75 ans. Les communistes arrivent en disant, mais nous, on va respecter la démocratie, on va respecter les libertés, on va respecter les individus, on va respecter les familles. Et puis, donc, on veut participer au pouvoir dans un large esprit de concertation. Et enfin, Roger, tu connais ça mieux que moi. Et puis, dès qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Bah, à Prague, ils jettent les gens par la fenêtre. En Hongrie, ils les pendent. En Allemagne, ils les fusillent. En Russie, ils les enterrent vivants. Au Cambodge, ils leur enferment la tête dans un sac en plastique et ils les font mourir d'asphyxie. Et au Laos, ils pratiquent encore d'une façon différente, mais le procédé général est toujours le même. Et vous avez à cette époque, quand ça se passe, ça, vous avez 15 ans.
J'avais 15 ans.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quel crime avez-vous commis pour qu'on vienne vous arrêter? Parce que une jeune fille de 15 ans, on a du mal à imaginer quand même qu'elle est vraiment porté atteinte à l'intérêt national, à la sûreté nationale ou à la prospérité du pays. Qu'est-ce que vous aviez fait?
Au Laos, avant le changement du régime, le Laos est un pays démocratique. Normalement, on a le droit de s'exprimer ses propres opinions. Et en pensant que je suis laotienne, c'était mon propre droit d'exprimer mes propres opinions. Donc, je me suis inscrite dans une partie politique qui s'appelle la partie Lao Hom Sampan, ou en français, Union Lao, Union des Nations Lao.
Et c'est une organisation nationaliste.
C'est un parti politique de droite qui...
Vous pouvez dire le mot, c'est pas...
Nationaliste de droite, et qui combat par la voie démocratique. Normalement, cette partie est une partie pacifiste. Et on lutte pour le principe de la solidarité humaine, de la paix humaine. Et donc, dans le temps, c'était légal, avant le changement du régime. Donc, après avoir étudié la politique de ce parti, je me suis inscrite. Après le changement du régime, le gouvernement de gauche voulait étouffer la population. Donc, ils exprimaient tous les gens qui sont contre le parti et qui ne sont pas, qui ne se plient pas au régime.
Oui, mais bon, ça c'est une chose bien claire. Donc, vous apparteniez à un parti de droite, vous aviez 15 ans, parce que vous ne deviez quand même pas être à la tête des unités de combattantes du parti. Et on vous a arrêté et on vous a mis en camp de concentration à 15 ans. Oui. C'est le régime. Je voudrais que ça soit bien clair dans l'esprit de nos auditeurs, parce que il y a beaucoup de gens qui croient, parce qu'on leur dit ça à longueur de journée sur les télévisions menteuses et sur les radios pourries, on leur dit le communisme est mort. C'est vrai, il est mort, il ne concerne plus qu'1,2 milliard de personnes. C'est dire à quel point il est mort, le communisme. Et notamment dans votre pays, on met des jeunes filles de 15 ans en prison parce qu'elles appartiennent à un parti anticommuniste. Voilà, c'est ça le régime communiste. Je veux dire, je fais pas d'anticommunisme primaire, viscéral, tertiaire et jurassique sur cette radio, ça serait inutile, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours comme ça. Ça existe toujours dans le monde entier. À Cuba, par exemple, Cuba est un régime communiste. Encore aujourd'hui à Cuba, il y a des gens qui crèvent dans les prisons de faim, de misère, de torture, de privation, parce que ils ne sont pas communistes. Voilà ce qui se passe à Cuba, où on va passer des vacances. Ça se passe aussi dans d'autres pays, ça se passe au Vietnam, ça se passe en Chine, ça se passe dans toute l'ancienne Indochine, et notamment chez vous. Donc, vous appartenez, vous, qui avez aujourd'hui une trentaine d'années, à une tradition démocratique dans laquelle on a foutu en prison des jeunes filles de 15 ans parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec le régime communiste qui s'était imposé par force et violence, mensonge et trahison à la tête du pays.
C'est que dans les pays communistes, qu'il faudrait voir la vérité, ils ne respectent pas ni une jeune fille ou un jeune homme, ils ne respectent pas l'âge. les gens qui n'obéissent pas au régime, ils sont tous arrêtés, ils ne tiennent pas compte de l'âge une jeune fille ou un jeune homme. Tout ce qui est contre le régime, on les arrête.
Alors, ce qu'il faudrait aussi que vous expliquiez, souvent, c'est que quand on dit que vous avez été arrêté et jeté en prison, vous n'avez pas été envoyé dans une prison pour femmes élégante où on vous a appris la broderie. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je voudrais que vous nous racontiez ce que vous racontez dans votre livre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la prison là-bas?
Après avoir été arrêté, et puis on m'a, après les interrogatoires, donc on m'a considéré comme quelqu'un qui est réactionnaire, qui est contre le régime, on m'a envoyé dans les chambres noires dans les premiers temps, pendant 9 jours, et après on m'a envoyé dans la prison centrale.
Les chambres noires, c'est quoi? Expliquez-nous.
C'était un ancien base militaire, et après le changement du régime, donc les communistes ont contrôlé ces bases militaires, et pour enfermer les gens, pour que les gens ne sachent pas qu'il y a des prisonniers qui sont contre le régime, ils les enferment dans ces bases militaires. Et après, on m'a envoyé dans la prison centrale. Ma mère, mes parents, en sachant que bon, j'étais arrêtée, comme j'étais encore mineure, on fait toutes les démarches, et même ma mère qui voulait se porter garant, qui voulait être enfermée à ma place, parce qu'elle a dit que j'étais encore mineure, et ça devait être, qui devait être arrêtée à ma place. Bon, on ne l'a pas entendu, on lui a dit que de toute façon, chez nous, on ne tient pas compte de l'âge. Elle est jeune, elle est encore mineure, mais c'est quelqu'un qui est réactionnaire, qui est contre notre régime. Il faudrait qu'on la garde. Après, c'est...
Alors, qu'on la garde, pour quoi faire? Pour lui changer l'intérieur de la tête? Pour faire un lavage de cerveau? Pour qu'est-ce qu'ils espéraient faire? Parce que vous aviez 15 ans. Ils vous ont jeté en prison à 15 ans. Alors, est-ce qu'ils voulaient vous garder en prison jusqu'à 75 ans, ou 85 ans, ou 95 ans, l'âge auquel vous alliez mourir? Ou est-ce qu'ils espéraient vous rééduquer? Qu'est-ce qu'ils pensaient faire, ces communistes?
Normalement, la prison, après le changement du régime, la prison centrale s'appelait l'école de correction de la pensée. C'est-à-dire que on est rentré dans ces prisons.
Le directeur s'appelait pas Boudarel, non? Non, je vous pose la question parce que on ne sait pas, il aurait peut-être pu retrouver un emploi là-bas.
Non. Et normalement, bon, la plupart des gens, avec le nouveau régime, ils ont un point fort, c'est-à-dire qu'ils transforment tous les mots. Au Laos, il n'y a pas de prisonniers, il n'y a que les gens, ils appellent ça les séminaristes. Et dans les prisons, ils appellent ça l'école de correction de pensée. Et dans tous les camps, ils transforment tous les noms.
C'est en ce moment, ça, ce que vous nous dites. Ça se passe en ce moment.
Ça s'est passé depuis 1975 et ça se passe encore en ce moment.
C'est ça. C'est pas il y a 50 ans en Allemagne. Ça concerne pas 50 millions d'Allemands il y a 50 ans, ça concerne 1,2 milliard d'êtres humains aujourd'hui même. Et notamment au Laos, ça concerne des dizaines de milliers de détenus politiques, de séminaristes, détenus dans des écoles de
correction de pensée. Et une fois, après avoir été dans ces écoles de correction de pensée, quand on devient progressiste, ou sinon on devient, comme ils disent, l'homme nouveau, être capable à participer à la construction du pays, c'est à ce moment-là on nous lâche.
Alors, quelle vie vous avez menée? Vous le racontez dans votre livre, mais je voudrais que vous le résumiez en deux mots, parce que je crois que votre livre, il faut le lire absolument. C'est un témoignage terrifiant. C'est absolument incroyable de penser qu'il y a sur cette terre des hommes, des êtres humains, enfin, ils croient peut-être qu'ils sont des êtres humains, eux en tout cas, qui sont capables de prendre une gamine de 15 ans et de la conduire dans cet enfer.
Et qui sont soutenus par l'Occident. Et tous les idiots utiles
financés par les salopards,
appellent ça ces camps de rééducation.
Descendus par la presse pourrie, française, parisienne, par tous ces journaux, qui sont des marchands de mensonges, de haine. Je ne vais pas citer de nom, parce que je ne voudrais pas être poursuivi, puisque maintenant, vous savez qu'entre journalistes, on ne se met plus de claques, on se défie plus en duel. On fait des procès, comme des petits Bon, je m'énerver, ça sert à rien. On fait des procès, on demande des sous, parce que c'est ça qui nettoie l'honneur. Quand je dis qu'un mec est un cloporte, au lieu de venir me gifler, ce qui lui vaudrait le double, il fait un procès, et il va voir la justice, et il dit, ce monsieur-là, il m'a traité de cloporte, et ça vaut, je veux 50 000 francs pour nettoyer ma cloportitude. Et le tribunal lui accorde ou ne lui accorde pas, ça c'est une autre paire de manches. Mais voilà, donc ces gens-là soutiennent aujourd'hui ces démons, cette canaille infernale que sont les communistes, qui sont des gens capables de mettre en prison des enfants de 15 ans dans des écoles de transformation de la pensée.
Ce qu'il faut aussi que les auditeurs sachent, c'est que le pays de notre ami, le Laos, était avant l'arrivée des communistes un paradis sur terre. C'était vraiment de tous les pays de l'Indochine française le pays où les gens étaient le plus heureux et vivaient vraiment dans une atmosphère détendue et il n'y avait pas de famine, il n'y avait rien. Et en ce moment, il y a encore, comme le dit mademoiselle, des gens qui sont dans les camps de rééducation pour devenir des hommes nouveaux. Au Laos, ça ne dérange personne, mais au Vietnam, c'est exactement la même chose. Avec le fait qu'au Vietnam, beaucoup d'anciens officiers de l'armée vietnamienne sont souvent des anciens de l'armée française et ont été mis en prison depuis des années uniquement parce qu'ils avaient des idées pro-occidentales tout en étant des nationalistes sincères qui pensaient avant tout défendre leur pays contre le communisme. Mais d'avoir eu des idées occidentales et d'avoir pensé que la guerre de race et tout ça c'était inutile, ils sont devenus des gens qui doivent être pour cela condamnés. Et tous les artistes qui ont été ces derniers temps faire des films là-bas, à Madame Deneuve et tout ça, ont trouvé que c'était merveilleux. Alors comment, après que ces pays aient été ruinés par les communistes, peut-on les trouver merveilleux alors qu'ils étaient merveilleux avant que les communistes n'interviennent? Parce que les drames qui se sont passés chez notre ami dans son pays, le Laos, tout ça, ça ne vient pas du parti communiste laotien, ça vient du parti communiste indochinois qui, dans un premier temps, avait chapeauté le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et il n'y a que par la suite que les communistes d'Asie et du Vietnam, qui sont les pires de tous, les Viet Minh, hein, ont fait des simulacres d'indépendance dans le parti, et il y a eu un parti communiste laotien, un parti communiste cambodgien et un parti communiste vietnamien, mais tout ça dirigé sous la férule des hommes de Chi Minh.
Alors, souvent, est-ce que vous pouvez nous, pour bien... pour donner à nos lecteurs l'envie de lire votre livre, qui est un livre dont je recommande très très chaleureusement la lecture, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait dans ces camps où vous avez été enfermé à l'âge de 15 ans? Comment se passait une journée?
Dire que dans les séjours, j'ai séjourné en gros dans 4 différents camps de concentration, et la politique de chaque camp se ressemble plus ou moins, et plus le temps passe, plus le temps passe, plus le communisme a pris le pouvoir, et la vie devient de plus en plus très très dure pour les gens qui vivent dans le pays. Les prisonniers devaient se lever de bonne heure, vers 5 heures du matin. Il faudrait qu'on fasse le ménage dans les prisons, et après il faudrait qu'on s'occupe des jardins potagers, et vers 7 heures on reçoit l'ordre pour aller travailler. Par exemple, dans la région de Vientiane, on travaillait sur la terre, et comme dans le nord, on travaillait pour les femmes, on travaillait la terre, et pour les hommes, ils coupaient les bois, tout ça. Et dans d'autres camps, par exemple dans les îles derrière les barrages de Namur, qui n'est pas du tout visité par le monde extérieur, ni sans parler des journalistes, même les Laotiens qui habitent autour du barrage de Namur n'ont pas le droit de s'approcher de ces camps-là. Les femmes devaient donner le même rendement que les hommes, c'est-à-dire couper le bois ou sinon construire les maisons, aller chercher des lianes et tout ça. Il faudrait qu'on donne le même rendement. Donc le travail collectif commence à 7 heures du matin. On a une pause à 1 heure pendant la journée. Et le soir, on termine vers 5 heures. Après 5 heures, quand on rentre dans le camp, on devrait s'occuper des jardins potagers de 6 heures jusqu'à 7 heures. Et 7 heures et demie jusqu'à 9 heures et demie, on devrait apprend les cours de politique. On commence par les cours d'autocritique, c'est-à-dire que chacun, il faudrait que chaque personne analyse ses points faibles de la journée, analyse ce que les autres ont fait comme faute dans la journée, ils ont bien travaillé ou pas, ils ont donné le rendement attendu ou pas du travail. Et il faudrait faire son propre autocritique depuis l'âge de 5 ans.
Je pense que se passe ça en ce moment, et on nous emmerde, il n'y a pas d'autre mot, à longueur de journée, de soirée, sur les 6 chaînes de télévision, avec le nazisme qui a crevé il y a 50 ans. Jusqu'à quand ça va durer cette imposture? C'est quand même invraisemblable de penser qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont réduits à l'état de bêtes de somme par des nazis rouges que sont les communistes, soutenu par les abrutis et les salopards de la presse française, de la presse internationale, hein, par le silence des diplomates pourris, par le silence des gouvernements de salauds, ça se produit en ce moment même, et on nous emmerde à longueur de journée avec des crimes commis par des gens qui ont crevé il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on peut avaler cette imposture? Jusqu'à quand ça va durer? Écoutez, moi je suis révolté par ça, par ce mensonge universel, constant, permanent, répétitif et abrutissant. Il faut arrêter. En ce moment, il y a 1 milliard 200 millions de personnes, c'est pratiquement le quart de la population mondiale, qui est soumis à un régime de terreur. C'est pas il y a 50 ans, c'est aujourd'hui, et c'est pas des nazis qui les soumettent à ce régime de terreur. C'est les copains de toute la pourriture, de toute l'intelligentsia française, allemande, anglaise, l'intelligentsia internationale, tous leurs copains en Chine, au Vietnam, dans toute l'Indochine, partout, à Cuba, qui font souffrir des millions et des millions et des millions d'êtres humains, et on n'en parle jamais, 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 mais tous les soirs, on nous raconte ce qui s'est passé il y a 50 ans. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va accepter ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se lever dans ce pays pour dire que cette plaisanterie immonde a assez duré?
Mais mademoiselle était sur place. Bon, alors il y a beaucoup de gens, garçons ou filles comme elle, qui ont été arrêtés. Mais il faut voir jusqu'où va le vice des communistes asiatiques, indochinois. Hein, c'est qu'ils ont à un moment lancé un appel aux gens qui s'étaient réfugiés en France et qui avaient fait des études en France. Ingénieurs, électroniciens, enfin des gars ayant un bagage et gagnant bien leur croûte en France, dont beaucoup avaient la nationalité française. Ils sont venus leur dire, c'est le moment de faire l'union nationale et il faut rentrer au pays. On vous paye le voyage. Et là-bas, vous participerez à la réconciliation nationale et à la reconstruction, à la remise en marche du pays. Et il y a plusieurs centaines de jeunes, garçons et filles laotiens et laotiennes, hein, qui étaient diplômés, qui sont repartis là-bas. Ils n'ont jamais été utilisés par le gouvernement marxiste. Ils ont, eux aussi, été mis à planter des choux. Et en débarquant, en partant de Paris ou en débarquant à l'aéroport là-bas, mais en partant de Paris, les meneurs qui étaient venus les chercher au nom de la patrie, de la réconciliation nationale et tout, leur ont fait déchirer leur passeport et leur carte d'identité française pour ceux qui avaient opté pour la nationalité française. C'est une imposture totale, et ça aussi, ça n'a jamais été repris. Et Dieu sait que dans un de mes bouquins, j'avais cité ces faits en donnant les dates, la date du départ et tout. Et un jour, au pour match, j'étais en Thaïlande, hein, pour faire un reportage, j'ai rencontré un jeune gars qui parlait français comme nous, hein, et qui avait fait partie de cette expérience, qui était parti. Pendant 3 ans, il a planté des choux, alors que c'était un ingénieur en électronique.
Et je voudrais en terminer, par exemple, et puis la soirée après les cours...
Bon, on revient sur la vie quotidienne dans les camps.
Après les séances d'autocritique, donc il faudrait apprendre les cours de politique. C'est-à-dire que les cours de politique, on commence d'abord par nous apprend à haïr les Français, les colonialistes, mais ils sont moins haïs que les Américains. Les Américains, il faudrait qu'on apprenne jusqu'à ce qu'on soit vraiment... On ne peut plus supporter, on parle que les Américains, ils viennent au Laos pour tuer, ils montrent que les mauvais côtés. Après ces cours de politique, ça se passe comme ça. Et une fois par semaine, on est obligé de venir chanter et danser pour montrer la joie de vivre dans le nouveau régime. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde devient l'homme nouveau et on vit dans la joie. Si on ne va pas chanter ou danser, on est puni. Et ça se passe comme ça tous les jours, dans tous les camps, jusqu'à ce que l'on est capable, on répète ce que l'État veulent nous faire répéter, veulent nous faire raconter, jusqu'à ce que ce soit vraiment par cœur. Il ne faut pas chercher à faire la comparaison, la réalité ou la vérité. Il faudrait juste répéter, savoir répéter, haïr les autres, regarder du mauvais côté. Et d'ailleurs, il parle, pour quelqu'un qui a une connaissance en technique ou en technologie, bon, ça c'est autre chose, mais il faut être d'abord progressiste, connaître d'abord la politique du parti pour pouvoir participer à la construction du pays. Ils ne tiennent pas compte de votre connaissance dans n'importe quelle branche de connaissance, c'est comme ça. Et l'art les communistes laotiens, comment ils ont gagné le Laos? Le Laos, la plupart des Laotiens respectent la famille royale et surtout le roi du Laos n'a jamais... C'est toujours dévoué, la famille royale s'est toujours dévouée pour le pays. Ils ont dit qu'après le changement du régime, les communistes laotiens ne sont pas comme les autres communistes des autres pays. Les communistes vont respecter la royauté, on va laisser le roi, on va respecter le roi, on va vivre dans la démocratie. Donc tout le monde a applaudi, tout le monde pensait que finalement on va quand même vivre dans la paix et dans un pays libre.
Enfin, entre nous, c'était quand même pas très futé de faire confiance aux communistes. Il y avait 50 ans qu'ils racontaient ça dans tous les pays du monde et qu'à chaque fois ils faisaient le contraire. Je pense que les Laotiens qui ont avalé ces mensonges-là étaient ou des complices ou des imbéciles.
Mais tout ça était quand même doublé dans le même temps où il y avait de bonnes paroles par l'assassinat du moindre fonctionnaire, des maires, des adjoints aux maires. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé au Sud-Vietnam, hein, par assassinat. Puis en plus, ensuite, tenant quelqu'un d'une famille, il tenait toute la famille.
Alors, souvent, il y a quand même une chose que je me demande depuis que je vous vois en face de moi. Vous avez le visage lisse d'une jeune femme qui a traversé l'existence sans trop de difficultés. Comment avez-vous fait pour résister à ça?
Je pense que, bon, dans la vie, je me suis retrouvée toute seule à l'âge de 15 ans. Je me suis dit, soit je me laisse mourir, ou sinon se battre avec toutes ces difficultés-là, et il faudrait vivre. Je voulais retrouver ma famille. J'essaye de faire tout pour survivre le drame que j'ai vécu.
Et comment, ça a duré combien de temps, cette détention?
J'ai passé 1139 jours, ou 3 ans, 4 mois, dans les 4 camps de concentration. Et après, j'ai traversé le Mékong à la nage, quand ils m'ont lâché. J'ai passé 9 mois dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Et après, j'ai retrouvé ma famille en France. Donc, en gros, ça fait presque 5 ans que j'ai vécu toute seule. J'étais obligée de me battre toute seule depuis l'âge de 15 ans.
Quel souvenir ça vous laisse aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu 1000 ans ou est-ce que vous êtes une jeune femme est-ce que vous vous sentez une jeune femme comme les autres?
C'est très difficile après avoir vécu tous ces drames. Bon, je dis, je ne suis pas la seule qui a vécu ce drame-là, mais j'ai eu une chance que Dieu m'a accordé la santé et la volonté. Et chaque fois, je me demande comment ça se fait-il dans ce monde dans ce monde vécu par les êtres humains, et comment ça se fait que l'enfer sur Terre, ça existe, et ça existe vraiment, et que personne ne sait, les gens du monde libre ignorent que ce qui s'est passé dans les zones contrôlées par les communistes.
Qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'Occident aujourd'hui, de l'attitude de l'Occident en général?
Les gens en Occident, ils ignorent, peut-être ils oublient un peu la vraie signification du mot liberté. Je pense que les gens pensaient que la liberté, c'est quelque chose qu'ils ont acquis comme ça. Ils ne sont pas conscients, un jour ou l'autre, ils peuvent perdre la liberté, comme au Laos, les gens perdent la liberté, parce qu'ils ne sont pas conscients de la signification, la vraie signification du mot liberté. Et je pense à ça, il ne faudrait pas se laisser mentir, vivre dans le mensonge. Il faut regarder, savoir regarder la vraie réalité, comment ça va se passer.
Vous êtes installé en France maintenant définitivement, ou est-ce que vous espérez retourner un jour au Laos?
Oui, maintenant je m'installe en France définitivement, et puis bon, avec toutes les années qui sont passées, je pense que je ne pourrai jamais retourner vivre sous ce régime communiste, donc j'ai demandé la nationalité française, et au bout de 3 ans, j'ai obtenu la naturalisation française.
Alors, votre livre s'appelle « La jeune captive du Pathet Lao ». Il est paru chez Fayard. Et il vaut exactement la somme de 120 francs. Je trouve que vraiment 120 francs pour comprendre ce qui se passe en ce moment même, je répéterai ça jusqu'à ma mort, si ça dure jusqu'à ma mort, ou si je vis assez vieux pour me voir mourir, comme disait l'autre, ça se passe en ce moment à quoi, 7000 kilomètres, Roger ? À 7000 km de notre jolie capitale, voilà ce qui se passe dans un pays où on met les petites filles de 15 ans en prison parce qu'elles ne pensent pas conformément à l'idéologie officielle. Souvent, vous avez au revers de votre tailleur une fleur de lys.
Si, que je suis royaliste parce que je pense, comme au Laos, la famille royale est très digne d'être respectée, et je rends hommage à la famille royale. Au Laos, après le changement du régime, les communistes, voulant gagner la confiance des Laotiens, ont invité la famille royale dans les zones libérées, ou ce qui voudrait dire, c'est les zones contrôlées par les communistes. Quand la famille royale a visité ces zones libérées, ils ont montré seulement que la belle partie. Après, ils ont envoyé les généraux et les officiers dans ces zones libérées, et qui ne sont jamais revenus, sont jamais rentrés chez eux. Ils ne sont jamais retournés chez eux. Et c'est comme ça que les communistes ont gagné le pouvoir au Laos. Et après, comme la famille royale est très digne, en sachant que vivant sous le régime communiste, un jour ou l'autre, ils vont être arrêtés ou tués ou envoyés dans les camps de concentration. Le roi restait quand même au Laos, il ne quittait pas le Laos, le roi et le prince héritier restaient encore au Laos, parce qu'ils pensent que, comme c'est leur pays, ils veulent mourir dans leur pays au lieu d'aller se réfugier ailleurs. Là, je pense qu'ils sont très dignes, mais peut-être, je ne sais pas, si j'avais le choix, bon, je pense que je conseillerais plutôt le prince héritier de quitter le Laos pendant ce moment-là et revenir après. Et la famille royale, bon, le roi et la reine et le prince héritier étaient envoyés dans les zones libérées après la prise du pouvoir définitivement par les... Et ils sont morts. On a appris récemment, bon, ils sont morts. Et la famille royale, les autres membres de la famille royale qui viennent s'exiler en France, ne sont pas du tout préparés pour vivre dans le monde extérieur. Ils ont un métier d'employé, mais je les respecte et les Laotiens les respectent parce que ils sont rois, bon, ils sont de la famille royale, ils n'ont pas du tout quitté le Laos avec l'argent du pays, ils vivent bon comme les autres Laotiens réfugiés.
Merci. Daniel Amiche est tout ému de vous entendre parce que il y a quand même ça évoque effectivement des souvenirs communs. La jeune captive du Pathet Lao chez Fayard, c'est un livre de Souvanavong. Alors, Souvanavong, c'est un prénom ou
c'est le nom de famille.
C'est le nom de famille.
Oui.
Souvanavong V.
Oui.
Ce V, c'est votre prénom secret, alors.
Oui.
Merci d'être venu nous parler de ça. Roger, quand tu entends ce témoignage, quand tu as lu ce livre, puisque je sais que tu l'as lu, est-ce que tu n'as pas éprouvé un formidable sentiment d'impuissance et de tristesse?
Oui, beaucoup de
tristesse. Après avoir combattu pendant des années là-bas.
Beaucoup de tristesse parce que
Moi, je fais partie des gens qui se sont battus en Indochine, avec à côté de nous des Laotiens, des Cambodgiens, des Vietnamiens. Bon, lorsque nous sommes partis, on savait très bien comment tout cela allait se terminer. Mais nous n'oublions pas non plus que, rentrant en France, nous ne nous sommes pas tus. Hein, nous avons continué le combat, nous avons soutenu ces pays, nous avons soutenu le combat du Sud-Vietnam contre le communisme, nous avons soutenu le combat du Cambodge, bien qu'il était beaucoup plus compliqué, nous avons soutenu le combat des gens du Laos, et nous avons expliqué tout ça aux Français, qui semblaient totalement s'en foutre. C'est ça le drame. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'ont pas voulu savoir. Mais nous sommes nombreux à le leur avoir dit. Tout ça a été écrit 200 000 fois, a été dit. Bon, c'est sûr que ça n'a pas été dit par les grands médias. Et aujourd'hui, quand ça ne passe pas à la télé, les gens ne font pas attention. Parce que la télé est un système de bourrage de crâne. Donc, ils passent ce qui les arrange, ils censurent ce qui les arrange. Ah, par exemple, là, on vient d'apprendre aujourd'hui, en parlant des communistes asiatiques, que les autorités dans certaines régions de Chine ont organisé le cannibalisme pendant la révolution culturelle. Bon, ils ont fait manger des ennemis de la révolution. Bon, mais moi qui étais grand reporter à Paris Match et au Figaro Magazine, je n'aurais jamais osé écrire cela. Bon, à moins que j'aie été sur place et que je l'ai vécu. Bon, je ne l'ai pas vu quand j'étais sur place en Chine communiste, c'est dans le monde. C'est le monde, donc il fait référence. Hein. C'est dans le monde d'hier qu'on nous annonce que cela a été dit. Mais moi, par contre, j'avais expliqué 25 fois que la révolution culturelle en Chine avait été une immense tuerie. Je disais, les discussions que j'avais eues à Pékin avec des ministres chinois, et entre autres avec un haut fonctionnaire chinois avec qui je m'étais retrouvé tout à fait par hasard seul, ce qui était impossible. Mais il y avait eu un jeu de transport, un jeu de véhicules, et à un moment les véhicules sont partis et on s'est retrouvé à deux sur le trottoir. Hein, ce chinois, haut fonctionnaire et moi. Et il m'a dit, à ce moment-là, en 2 minutes, plus que je n'en avais entendu et vu pendant un mois de reportage. Il m'a dit, la révolution culturelle a été un assassinat collectif. On s'est battu dans ce pays avec toutes les armes. Ça n'a jamais été dit. Lorsque Mao Tse-tung est mort, Monsieur Giscard d'Estaing a déclaré « Un phare de l'Occident vient de s'éteindre. »
De l'humanité.
Un phare de l'humanité vient de s'éteindre. Voilà comment on écrit l'histoire. L'affaire de la place Tiananmen a été connue. Il y avait des télévisions. Ça a été répercuté dans le monde entier. Ça n'empêche qu'on a pardonné au régime communiste chinois quelques mois après. À peine quelques mois après. Donc, la Chine communiste étant quand même un immense pays, bon, ben, que pouvait être le Laos, tout petit, hein, à côté de ça? Bon, les Occidentaux ont laissé massacrer et rééduquer à la mode marxiste, hein, les braves gens qui ne voulaient pas du communisme au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Et cela dure encore aujourd'hui, comme tu le dis, et malheureusement, on n'en voit pas la fin, puisque Monsieur Hulot, hein, la femme du film Indochine, enfin tous ces gens viennent avec des trémolos dans la voix, hein, nous dire le Vietnam, l'Indochine, qu'est-ce que c'est beau. Mais enfin, je répète à ces gens-là. Enfin, vous osez trouver ces pays beaux et agréables à vivre aujourd'hui alors qu'ils sont sous la botte communiste et que ce sont les communistes qui ont organisé cette mascarade de liberté. Il n'y a aucune liberté et ces pays ont faim aujourd'hui. Mais même du temps de la guerre des Français et même du temps de la guerre des Américains. Mais parlons de notre guerre que nous avons fait, nous, en sachant pourquoi on se battait. On l'a fait avec notre cœur, on l'a fait avec notre âme. Il n'y avait pas de famine ni au Laos, ni au Cambodge, ni au Vietnam. Alors, toujours les donneurs de leçons disent, mais en 1945, il y a eu une famine horrible En Indochine. Oui, il y a eu une famine au Tonkin en 1945. Mais pourquoi? Parce que les circuits de distribution avaient été anéantis par les Viet Minh qui prenaient le pouvoir et dont les bandes armées assassinaient partout. Et aussi parce que les Américains, par des raids massifs, avaient coulé tous les bateaux de transport français, hein, qui faisaient avant la guerre le ravitaillement du nord avec le riz qui était pris dans le sud. Enfin, tout ça a été dit, tout ça a été écrit. Mais ces gens font la censure qu'ils veulent. Et ils sont responsables, eux, c'est à Paris, à Washington, à Londres, à Berlin ou ailleurs, que les gens qui possèdent la presse font dire n'importe quoi à leurs journalistes. Et c'est eux les véritables responsables, si mademoiselle a été dans les camps au Laos, c'est eux qui sont les responsables des gens qui sont dans les camps encore au Vietnam aujourd'hui et les massacres au Cambodge, puisque les Khmer Rouges n'ont pas été désarmés et qu'ils vont faire en sorte de faire encore apporter la misère et le drame dans ce beau pays aussi qu'était le Cambodge, qui était un pays qui, avant le communisme, n'avait jamais connu la faim, puisque les réserves de poissons du Tonle Sap et les régions de Battambang ou autres où on faisait 2 et 3 récoltes de riz par an, c'était quelque chose, c'était un pays de cocagne. Bon, le Laos était moins riche, mais les Laotiens vivaient très 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 heureux. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la colonisation est organisée par les Vietnamiens communistes aussi bien au Laos qu'au Cambodge. Aussi bien au Laos qu'au Cambodge. Hein, on a changé les noms, on a falsifié les états civils, on a fait en sorte que beaucoup de Vietnamiens prennent la nationalité laotienne. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pas un génocide, on ne peut pas employer ce mot. Ce ne sont pas des peuples heureux qui sont plongés dans la misère avec l'aval de l'Occident.
Alors je rappelle à la demande de plusieurs auditeurs le titre du livre de Souvanavong. Alors ça s'écrit Souvanavong, c'est le nom Souvanavong, et le titre c'est un titre qui est évocateur pour nous en ce bicentenaire, puisque c'est la jeune captive, ça devrait nous faire penser à Chénier, la jeune captive du Pathet là-haut. Ça montre bien que 2 siècles plus tard, la même révolution se poursuit et porteuse de mort et de misère. La jeune captive du Pathet là-haut, c'est paru chez Fayard. C'est vraiment un livre à lire. C'est un témoignage terrible dans sa sobriété, comme on a l'habitude de le dire. C'est parfaitement clair. Roger, tu ne nous quittes pas parce que je sais que tu as plusieurs choses à nous dire, et notamment...
Oui, je voulais déjà dire que j'ai vu mademoiselle Souvanavong, on en a parlé, je vais lui écrire ces jours-ci. Je pense qu'on lui fera un beau stand pour vendre et dédicacer son livre à la fête du château, le 20 juin.
Alors tu as eu la mauvaise idée de faire cette fête le 20 juin, c'est le jour de la fête de Radio Campoisie.
Je regrette vraiment, mais il n'y a pas un calendrier national, et les dimanches sont très rares, surtout au mois de juin. il y a quatre dimanches au mois de juin, et on est tous en train de se chevaucher, parce que moi je suis tenu, comme tout le monde, par les congés scolaires, par les départs en vacances,
par les communions,
pour le camp d'été des cadets dont je parlerai tout à l'heure. Bon, je suis tenu par les vacances scolaires aussi, et c'est très 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 astreignant. On est obligé de, en définitive, en ce qui concerne les activités du château du CNC en Sologne, on a deux mois et demi, quoi, où tout le monde voudrait être là-bas pour sur deux mois et demi. On a 2 mois et demi.
Alors donc, le 20 juin, c'est la fête du CNC.
Alors, dimanche 20 juin 93, de 8h30 à 20h au château de Neuvy-sur-Barangeon, 5e grande fête champêtre et familiale, 10h30, messe traditionnelle par l'aumônier du CNC, 12h, cérémonie des couleurs, remise de décoration. Nombreux restaurants, très nombreux restaurants, stands divers, les sonneurs de Sologne, la meute, une brocante géante, un espace pour les enfants avec un petit train, le charrette à âne. À 16h, un grand spectacle équestre, le retour des Cosaques, c'est vraiment une démonstration de cavalerie formidable. Et à 17h30, le discours de Jean-Marie Le Pen. Bon, dans la journée, et depuis le matin jusqu'à tard l'après-midi, bon, des, des auteurs comme notre ami auront des tables bien installées et Madame Lezot aura les livres de ces auteurs qui n'auront pas à les amener. On les prendra chez leur, à leur maison d'édition et on fera l'impossible pour que ce soit une grande journée. Puis alors, c'est un peu secret, mais je l'annonce à nos amis quand même, c'est que le soir, à la fin de la fête, au moment de son discours, on fêtera l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, puisque c'est ce jour-là son anniversaire, et le CNC lui remettra un cadeau, je ne sais pas, ça sera un gros gâteau, enfin je sais pas, ça sera un peu une surprise. Alors l'entrée de la fête est de 50 francs, enfants jusqu'à 7 ans c'est gratuit, et de 8 à 12 ans c'est 30 francs. On a essayé de voir pour que tous les gens puissent manger sur place. L'année dernière il y avait quand même plusieurs milliers de personnes, c'est une fête qui est très suivie. Et j'espère que cette année, on aura aussi beaucoup de monde, parce que cet argent sert à toutes les activités du CNC, aussi bien l'entretien et la remise en état de ce château qui est notre maison mère, que l'argent dont on a besoin pour toutes les activités, ne serait-ce que pour les cadets. Alors j'avais annoncé la dernière fois que j'avais dissous les cadets du CNC, mais il y a une suite. J'avais dissous pour des questions financières les cadets du CNC, ça me coûtait réellement trop cher, et là j'ai recréé les cadets de France et d'Europe, c'est une école de l'amitié et de l'aventure, avec un seul culte, le culte du drapeau. Alors les cadets de France et d'Europe sont un mouvement de jeunes, qui est rattaché au Cercle National des Combattants. Ils assurent la pérennité des cadets du CNC. Alors parfois des gens me disent, bah oui, mais enfin c'est pas normal, on s'étonne, Monsieur Hollande, vous avez fait un mouvement mixte. Oui, j'ai fait un mouvement mixte, mais enfin, on doit quand même savoir que je suis pas trop marxiste. Bon, c'est un mouvement où il y a des garçons et des filles, mais les équipes sont masculines ou féminines, les dortoirs sont séparés, les douches sont séparées, les filles dorment de leur côté et les garçons de l'autre. Je suis navré d'avoir à expliquer.
D'avoir à expliquer
tout cela. Alors pour le camp d'été de cette année, il se passera dans la maison mère au château et dans les bâtiments annexes qui sont ceux des cadets de France, des cadets de France et d'Europe, nous avons organisé des prix qui sont quand même valables, puisque pour 25 jours, c'est 2500 francs pour le premier enfant, 2250 francs pour le deuxième enfant et 2000 francs pour le troisième enfant. Bon, pour avoir tous les renseignements et le dossier, il suffit là aussi d'écrire au Cercle National des Combattants, 38 rue des Entrepreneurs, 75 015 Paris, et je répète le téléphone où il faut demander Madame Lezot ou la secrétaire Laure au 40 59 07 66. Alors là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que toute ma vie, je me suis occupé de la jeunesse. Dans l'armée, j'ai eu la chance souvent, bien que j'ai fait toutes les guerres que les socialistes ont déclarées, comme je dis tout le temps, que j'ai été toujours en unité combattante, entre deux guerres, celle d'Indochine et celle d'Algérie, j'ai été instructeur, guérilla, anti-guérilla, je suis ancien self-scout, j'aime beaucoup la jeunesse, et pour moi, l'avenir de la France ne peut passer que par sa jeunesse, et la jeunesse française ne peut être que disciplinée. Ça ne veut pas dire qu'on ne chante pas, ça ne veut pas dire qu'on ne rit pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une grande amitié, mais le respect, la discipline, le respect de soi-même, le respect du drapeau, le respect de la patrie. Il y a beaucoup de boulot à faire, puisque les gosses, les trois quarts du temps, quand on leur parle de ça les premiers jours, ils ouvrent des grands yeux. En 5, 8 ou 10 ans ou 15 ans d'école, ils n'ont jamais entendu prononcer ces mots.
Merci Roger. Alors, je signale, parce que c'est quand même très important, que le même jour, malheureusement, que la fête du CNC à Neuvy-sur-Barangeon, se déroulera la cinquième fête de la courtoisie, c'est le dimanche 20 juin 1993. Je dis malheureusement, en fait, c'est pas malheureusement, parce qu'il y a évidemment beaucoup de Parisiens qui n'auront pas les moyens en temps ou les moyens financiers ou les moyens techniques, automobiles, de se rendre à Neuville, et donc ils pourront rester à Paris, ils ne seront pas tout seuls, puisque de 10h à 19h, au Palais de la Mutualité, que nous connaissons bien, ma pauvre Victoria, combien de fois nous y sommes allés, que ce soit sur l'estrade ou dans la salle, à ce Palais de la Mutualité,
il n'y a pas si longtemps. Sur l'estrade, à
non,
la
c'est pas possible.
C'est
dommage.
Au Palais des Sports.
Vous auriez été quand même plus jolie à regarder que certains autres, dont je ne citerai pas les noms.
Merci.
Alors donc, combien de fois nous y sommes allés? Des dizaines de fois. Et souvent, c'était plus facile d'y rentrer que d'en sortir. Enfin, donc, ce dimanche 20 juin, 5e fête de la courtoisie, c'est une tradition, on le sait, chaque année, nous passons la journée en compagnie de l'équipe de Radio Courtoisie et de tous les invités des différentes émissions de l'année. Des écrivains, des artistes, des peintres, comme ça on peut voir leurs tableaux, des éditeurs d'art, on peut voir leurs livres, ce qui ne marche pas à la radio. Et tous ces gens-là viennent présenter et dédicacer leurs œuvres. Alors, en ce qui concerne le stand, c'est pas grossier, c'est pas américain. Bon, en ce qui concerne le stand du Libre Journal du mercredi, non mais je crois que c'est d'origine latine en plus.
Stand. Oui.
On pourra donc rencontrer. Est-ce qu'on pourra rencontrer Victoria?
Oui, je pense.
Sans doute.
Et M. Beckett, sera-t-il présent à la fête du livre?
Et commandons. Je serai là,
bien sûr.
Hélas, puisqu'il y a encore une troisième cérémonie à laquelle j'aurais bien voulu assister, c'est l'ordination d'un jeune frère à Riaumont. Ça va être somptueux, mais on peut pas, n'ayant pas le don d'ubiquité, je suis obligé d'être à Radio Courtoisie, le devoir commande. Et donc on verra tous nos amis qui viennent ici dans les différentes émissions. On verra Marie-Josée de Bravura, bien sûr, qui tient pour aller demander de venir présenter quelques-unes de ses sculptures. Parce que depuis le temps qu'on en parle, on les a jamais vues. Enfin, moi je les ai vues, mais pas les auditeurs. Bon, il y aura donc tous nos amis qui seront là. Alors je rappelle, dimanche 20 juin 1993... de 10 à 19h au Palais de la Mutualité. Et vous comprenez bien que pour organiser ce genre de réception, il faut pouvoir prévoir le nombre d'invités. Parce que, étant donné qu'il y a un buffet campagnard, selon qu'on est 1000 ou 10 000, on ne commande pas tout à fait la même quantité de pâté et de petits pains. Et donc il faudrait écrire en joignant le plus tôt possible un chèque de 150 francs pour l'entrée. Ça c'est pour les parents. Alors c'est buffet et vin compris. C'est-à-dire qu'au fond c'est une économie puisque vous pouvez amener gratuitement vos enfants. Et donc si vous avez, comme c'est la mode chez nous, une grande famille, vous venez deux parents, 300 francs, vous amenez les 18 enfants, je pense à quelqu'un en particulier, ou les 12 enfants, je pense à des amis versaillais qui peuvent venir, et vous pouvez manger donc à 15-20 pour 300 francs, toute la journée. Et si vous venez avec les enfants, vous pouvez les faire manger pour 3 jours, comme on fait quand on va chez la tante le dimanche, on dit « mange, c'est gratuit ». Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez payé votre cotisation, vous vous rendez compte que pour une cotisation de 200 francs, plus deux entrées à 150 francs, vous faites manger 15 enfants pour 3 jours. Je suis sûr que personne ne peut y arriver. Enfin voilà. Donc c'est le conseil que je vous donne. Écrivez très rapidement à Radio Courtoisie, dont je vous rappelle l'adresse, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Je vous donne pas le téléphone puisque ça ne sert absolument à rien. Pour cette occurrence-là.
J'avais une réponse à faire, là, parce que j'ai une question qu'on m'a passée, là. C'est un monsieur qui me demande, qui souhaiterait que je réponde, que sait-on exactement sur l'affaire des fuites en Indochine? Le nom de Baranès avait été cité, et des militaires français avaient à l'époque été éclaboussés. Bon, il y avait eu une histoire incroyable aussi à cette époque-là, ce qui prouve que à la désagrégation de la France et la pourriture dans les milieux politiques et les gens chargés d'informer la nation, ça n'est pas d'aujourd'hui. Hein, il y avait eu un Viet Minh qui avait été arrêté dans un autobus et sur lui on avait trouvé les plans d'évacuation de la frontière de Chine des garnisons françaises qui étaient plus ou moins menacées. Et c'était l'histoire du fameux rapport Revers. Hein, et le rapport Revers avait été remis par un membre du comité de défense nationale, hein, au Viet Minh directement. Voilà. Ça aussi, c'est pas dans les livres d'histoire qu'ont nos enfants à l'école, hein, qu'on le leur apprendra.
Mais d'autant qu'on serait obligé de mettre des noms dedans qui poseraient quelques problèmes.
C'est
aujourd'hui.
C'est sûr. Et pas des gens qui sont au pouvoir encore aujourd'hui.
Ah ben hein, même très très au pouvoir, même vraiment.
Aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui. Mais enfin, je tiens à dire que nous travaillons en ce moment, Alain Sanders et moi-même, sur une très très grosse documentation que j'ai fait depuis 20 ans, sur l'Indochine, et que nous pensons avoir trouvé un éditeur et que nous sortirons pour 94 deux livres, un sur la guerre d'Indochine dont le titre provisoire est « Ce fut une grande guerre » et le deuxième sur l'ignominie de la conduite des Viet Minh, sous le titre « L'imposture Viet Minh » avec certainement et même sûrement, puisque je l'ai, et je sais que c'est la meilleure de France, la plus grande documentation sur les tracts Viet Minh. Donc là, on est en train de chercher un éditeur, et ça sera un peu ces deux livres, l'historique de la guerre d'Indochine, mais c'est pas pour ça qu'après, on se taira, parce que moi, je pense jusqu'à ma mort, je défendrai mes copains.
Alors une auditrice téléphone en disant « Vous faites de l'embrigadement des jeunes ». Et je dois dire que je lis cet avis avec une espèce de jubilation, parce que ayant en face de moi Mademoiselle Souvanavong, qui, elle, sait très exactement ce que c'est que l'embrigadement des jeunes, puisqu'elle a vécu ça quand même dans sa chair et qu'elle en a pleuré des larmes de sang, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui manquent de la pudeur minimum. C'est-à-dire que quand on voit un ancien combattant, un ancien sous-officier de l'armée française qui se dévoue pour essayer d'arracher nos jeunes à la pourriture ambiante et d'en faire des types bien, dire qu'il fait de l'embrigadement des jeunes, quand on a entendu pendant trois quarts d'heure une jeune captive du Pathet Lao-Haut raconter ce que c'était que son cauchemar, c'est vraiment de la canaillerie, je suis obligé de vous le dire, madame. C'est de la canaillerie pure et simple.
Mais moi, je suis à ton émission et je répondrai par politesse, mais je dois dire que ce genre de choses me donne envie de pleurer, et il m'en faut, parce que j'en ai tellement marre d'entendre des bêtises pareilles. Les jeunes, soi-disant embrigadés, qu'est-ce qu'ils apprennent? Hein, ils apprennent ce que la presse marxiste de la région du Cher avait écrit. Hein, Monsieur Allendre, vient de louer un château de l'ex-empereur Bokassa. Hein, et il va y faire un mouvement de jeunes. Nous ne serions pas étonnés qu'on y envoie les couleurs le matin.
Ah,
quelle horreur! Quelle horreur! On y envoie les couleurs le matin. Bon, alors je leur apprends à manger correctement, à se tenir correctement à table, à être propre sur eux, à savoir marcher dans la forêt, à respecter la nature, à respecter leurs aînés, à respecter les gens qui se sont battus pour ce pays, à être prêts demain, parce qu'il faudra bien quand même qu'il y en ait quelques-uns qui soient prêts à défendre ce pays avant qu'il ne sombre, parce qu'il risque de sombrer. Quel embrigadement! On ne les fait pas crier « Vive Le Pen », on ne les fait pas crier « Vive Hollande », on leur fait crier « Vive la France ». Et encore, une fois, hein, quand on fait la fête de fin de camp. Mais c'est vrai que tous les matins, quand les couleurs montent, je dis on regarde le drapeau qui monte parce que c'est le symbole de la patrie. Alors s'il y a des gens qui écoutent cette radio et qui pensent que dire que le drapeau français c'est le symbole de la patrie, c'est embrigader les jeunes, eh bien on a du mouron à se faire.
Et un auditeur demande pourquoi Serge de Beckelt ne parle-t-il jamais du massacre des Bosniaques. Mais je vais vous dire pourquoi je parle jamais de ce qui se passe aujourd'hui dans l'ex-Yougoslavie. C'est parce que je trouve qu'on a vraiment tellement d'occasions au sein de notre famille de se bouffer le nez, de s'entretirer les oreilles, de s'entrebotter le cul, que c'est pas la peine d'en rajouter. Et que quoi que je dise sur ce qui se passe en ce moment en Yougoslavie entre les Bosniaques, les Croates et les Serbes, ça ne changera absolument rien à la situation. La seule chose que j'arriverai, c'est à réunir autour de cette table des gens qui s'aiment, qui s'estiment et qui se respectent, et qui après une demi-heure de conversation vont se foutre sur la gueule. Et c'est véritablement pas l'objectif que je me suis fixé dans l'existence. Moi, mon but, aussi bien avec cette émission qu'avec le Libre Journal, c'est d'unir, c'est de rassembler des gens qui ont des choses en commun. C'est pour ça que je suis fatigué de voir sans arrêt souligner nos différences. Par exemple, quand on me dit est-ce que la messe du Mont des Alouettes va être dite par un prêtre de la fraternité Saint-Pédis ou de la fraternité Saint-Pierre ou de... Je n'en sais rien et je vous avoue que je m'en tape profondément. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il va être dit une messe qui est la messe de la tradition. Ça, oui, ça compte. On est sûr qu'on n'aura pas une mascarade interprétée en rock et à la guitare par un curé en blue jean. Ça, c'est sûr et certain. Et pour mon bonheur personnel, ça me suffit. Et très franchement, je suis obligé de dire que je crois que pour le bon Dieu, ça fait pas une grande différence que ce soit un prêtre de la fraternité ou un prêtre de l'autre fraternité qui dise la messe. À mon avis, il doit se débrouiller pour y retrouver ses petits, vous voyez. Je crois qu'il est plus intelligent que nous, le bon Dieu. Un auditeur dit « Je suis maçon et je souhaiterais que M. de Beketch ne fasse pas de réflexion grassouillette, hein, c'est joli ça, sur les maçons. Il faut rappeler que sous la terreur, comme dans les régimes communistes, les maçons sont morts et il peut y avoir des maçons légitimistes. » Alors à ça, je répondrai plusieurs choses. Je dirais que d'abord, il y a peut-être des maçons qui sont morts sous la terreur, mais il faut quand même rappeler que... Ils ont surtout été du côté des assassins, parce que la révolution est une révolution maçonnique à 100%, elle a été préparée, organisée et conduite par la maçonnerie. Et les maçons ont été les principaux pourvoyeurs de guillotine, première chose. Deuxième chose, quand on nous dit que les maçons sont morts sous les régimes communistes, je dirais qu'ils l'ont pas volé, parce que par leur action délétère, ils ont préparé la voie du communisme, et quand ils se sont fait zigouiller par les communistes, au fond, ils ont ramassé ce qu'ils avaient semé, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Et puis, je dirais une dernière chose, c'est que quand on me dit qu'il peut y avoir des maçons légitimistes, je dis tout simplement que je ne le crois pas. Pour une simple raison, c'est que l'appartenance à l'Église catholique, l'appartenance à la foi, interdit l'appartenance à la maçonnerie. Et si on est croyant, si on est légitimiste, on croit que Dieu tient sa légitimité, que le roi tient sa légitimité de Dieu. Et que, on croit donc que l'Église représente une valeur indiscutable et une autorité incontestable. Et par conséquent, quand l'Église dit vous ne pouvez pas appartenir à la franc-maçonnerie parce que c'est une société secrète dont les intérêts sont contraires à ceux de l'Église, eh bien, ou on obéit et on n'est pas franc-maçon, ou on n'obéit pas et on n'est pas catholique et on n'est donc pas légitimiste. C'est aussi simple que ça. On peut être royaliste, on peut être monarchiste, disons, mais certainement pas légitimiste. J'ajouterais que la raison pour laquelle l'Église est contre la maçonnerie, elle est double. La première, c'est parce que la maçonnerie est contre l'Église. Il s'agit donc d'un phénomène d'autodéfense. Et la deuxième, c'est parce que il y a une incompatibilité fondamentale et définitive et radicale entre le secret maçonnique et la confession. La confession doit, comment dirais-je, en confession on doit tout dire, et quand on a prêté serment de ne rien révéler de ce qui se passe dans un atelier, quand on passe en confession, ou on trahit son serment et on n'est plus maçon, ou on le respecte et la confession est invalide. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de chercher très très loin les raisons d'une opposition définitive, fondamentale et radicale entre la pratique catholique et l'appartenance à la franc-maçonnerie. Et croyez-moi, une fois pour toutes, je sais de quoi je parle. Voilà. Il y a une question pratique, mademoiselle Souvalamont, qui nous est posée. On demande combien il y a en ce moment en France de laotiens.
Il y a à peu près 30 000.
30 000. Est-ce que ils sont massivement des réfugiés qui ont échappé au régime communiste du Pathet Lao, ou est-ce que il y a aussi des laotiens communistes en France en ce moment?
La plupart, bon, ce sont les réfugiés, et maintenant, comme avec le nouveau régime, ils se sont rendus compte, ils ne peuvent pas rester dans ce régime-là, et le communisme tombe par ailleurs, donc ils commencent à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'ils commencent à envoyer les gens, les laotiens qui sont sous le régime communiste, pour apprendre, pour voir comment les autres, pour apprendre la technologie des autres pays. Et principalement, bon, il y a pas mal de Laotiens qui viennent en France pour essayer d'apprendre la technique française.
Merci de ce renseignement. Et un dernier message.
Il ne faut pas oublier quand même que les pires dirigeants communistes du Cambodge et Laos et du Vietnam ont eu des postes en France.
Bien sûr.
Au CNRS ou autre. Hein. Il est beaucoup plus difficile pour un Laotien, un Vietnamien ou un Cambodgien qui a servi dans l'armée française d'être dépanné ici et d'avoir un boulot que des gens qui ont tiré sur l'armée française et fait tuer les Laotiens, Vietnamiens et Cambodgiens qui étaient des amis de la France. Certains services français sont remplis de traîtres, de gens étrangers qui ont tué nos soldats et qui ont tué nos frères de là-bas.
Alors beaucoup de remerciements et de félicitations à Roger, comme d'habitude, mais c'est devient vraiment, c'est la routine maintenant. Chaque fois que Roger vient dans cette émission, il soulève l'enthousiasme, et j'en suis très content. Un auditeur nous téléphone en disant « Depuis Vatican II, l'Église a reconnu la franc-maçonnerie, on peut donc être maçon et catholique. » Je suis désolé de lui dire que ça n'est pas vrai. L'Église n'a pas reconnu la franc-maçonnerie. Il se trouve simplement que l'excommunication qui était attachée de facto à l'appartenance à la maçonnerie n'a pas été reprécisée dans les documents postérieurs au concile, mais l'appartenance à la maçonnerie, vous pouvez en parler à votre confesseur, il vous dira ça très vite et très bien, l'appartenance à la maçonnerie est toujours une faute grave contre la foi et contre l'Église, pour la raison que je viens d'expliquer. Vous ne pouvez pas être maçon et catholique à la fois, puisque vous ne pouvez pas vous confesser sans trahir le secret maçonnique, et vous ne pouvez pas garder le secret maçonnique sans être en état de péché mortel pour confession incomplète. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Une auditrice, alors effectivement on m'a beaucoup parlé de ça et je voudrais donner une explication. Une auditrice dit « N'ayant pu vous joindre mercredi dernier, il me faut vous dire une chose. Je suis une de vos ferventes auditrices et je ne comprends pas votre silence lorsque votre invité, Jean-Paul Bourg, a dit froidement qu'il avait fumé un joint dans les toilettes de Radio Courtoisie. Je vous ai toujours entendu dire votre haine contre la drogue. » Alors, je voudrais m'expliquer là-dessus. Effectivement, Jean-Paul Bourg est venu à ce micro la semaine dernière et en sortant de l'émission, on m'a dit « Mais pourquoi t'as pas réagi ?» J'ai dit « Mais pourquoi j'ai pas réagi à quoi ?» Mais quand il a dit qu'il avait fumé un joint, j'ai dit « Mais j'ai pas entendu ça. » Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que vous imaginiez le studio. Comment ça se passe dans ce studio? Ce studio est une petite pièce, il y a une table autour de laquelle tout le monde est assis. Et pendant que je reçois mes invités, pendant que je les interroge et pendant qu'ils parlent, Philippe Varlet apporte les appels, les messages téléphoniques qui sont envoyés par les auditeurs. Alors, suivant l'émission, il y a 100, 200 messages téléphoniques, etc. Bon. Ce qui fait que, pour pouvoir en prendre connaissance, il faut les lire. Et bien sûr, il faut que je les lise. Et généralement, il faut que je les lise, bien que Victoria fasse un premier tri, il faut que je les lise pendant que mon interlocuteur parle. Ce qui fait que, très souvent, je pose une question. C'est pas pour mon édification personnelle, c'est pour l'édification des auditeurs. Je pose une question et je n'entends pas la réponse. Ou j'entends incomplètement la réponse. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dû poser une question à Jean-Paul Bourg. Je me souviens effectivement que je l'ai interrogé sur des propos qu'il aurait tenus contre Radio Courtoisie sur sa radio qui est ici maintenant. Et il a commencé la réponse. Puis à ce moment-là, on m'a apporté des messages que j'ai commencé à lire. Et je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Ça, c'est la première chose, parce qu'évidemment, j'aurais réagi. La deuxième chose, c'est que je connais Jean-Paul Bourg depuis un certain nombre d'années, et je dois dire que c'est un garçon qui est plein de qualités humaines, notamment qui est très intéressant, très profond, etc. Mais c'est un formidable provocateur. Ça, il faut dire, toute sa vie est fondée sur la provocation constante. Il ne peut pas résister au plaisir de dire à quelqu'un exactement le contraire de ce que cette personne a envie d'entendre. Alors il est évident qu'il est venu ici en essayant de faire une petite provoque amusante pour voir comment j'allais réagir à cette annonce totalement incongrue selon laquelle il était allé fumer un joint, comme il dit, dans les toilettes de Radio Courtoisie, ce qui, entre nous, quand on connaît les toilettes de Radio Courtoisie, relève de l'exploit, parce que c'est une personne debout et pas de personne en large. Donc, tout ça relève du gag, de la provocation, Bon, alors, je comprends que beaucoup d'auditeurs aient été choqués. Moi-même, si je l'avais entendu, j'aurais probablement réagi. Dieu merci, j'ai pas entendu. Ça nous a évité un incident à l'antenne. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, il y a une question.
Oui, un auditeur a vu dans un kiosque une revue Baladure Magazine. De quoi s'agit-il?
Ce sont des gens qui ont décidé de sortir.
Un canular
de sortir. Ce sont des journalistes qui ont décidé de sortir une revue ne parlant que de Balladur. Je ne sais pas si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, mais enfin, ils ont déjà prévu 6 numéros. Ils ne parleront que de Balladur.
C'est intéressant, ça. Et puis, on nous signale l'émission.
Il y a bien des numéros qui parlent que des chevaux ou des journaux qui ne parlent que du football. Je ne vois pas pourquoi on ne parlait pas que de Balladur.
L'émission 7 sur 7, le roi Hassan II a affiché sans détour ce qu'il pensait de l'intégration. Peut-être serait-il bon de le rappeler. Il a dit « Un maghrébin ne sera jamais un bon français ».
Ben, normalement, il devrait être poursuivi. Pour ça, c'est un propos
il
qui est
chance, hein,
condamné. La loi Guesso-Fabius interdit de dire ça. C'est interdit. Donc maintenant, la question est de savoir si le parquet va se payer le culot d'intenter un procès
au roi du Maroc. Cette émission que j'ai regardée en partie, où chaque fois que le roi disait quelque chose qui ne plaisait pas à Anne Sinclair, elle passait immédiatement à une autre question. Elle ne laissait même pas terminer. Mais c'est pas ça exactement qu'il a dit. Il a dit qu'il était outré qu'on fasse une telle retape en France pour que les Marocains prennent la nationalité française, que les Marocains avaient une nation, un pays, et que ce pays était respectable, hein, et que l'honneur des Marocains c'était de rester Marocains. Mais tout ça c'est de, hein, je dirais pas que c'est de l'hébreu pour ces gens-là, mais c'est du chinois, parler de patrie, parler de tout ça, c'est... Alors, d'ailleurs, l'humanité disait Hassan II donne un coup de main à Le Pen.
C'est toujours ça de prix. Un auditeur téléphone pour me reprendre, parce que j'ai tout faux dans l'histoire Attali. Alors il dit, c'est Monsieur Bernard... Non, pardon, il dit exactement. Monsieur Bernard Attali n'est ni l'ancien conseiller du président, ni l'auteur de Verbatim, ni le directeur de la Berde. Il est tout à la fois, mais les deux choses n'ont évidemment aucun rapport entre elles, le frère de M. Jacques Attali et le PDG d'Air France. L'auteur de Verbatim, c'est M. Jacques Attali, et l'auteur dont on dit qu'il a été plagié par M. Jacques Attali n'est pas du tout, comme je le disais sottement, Simon Wiesenthal, mais M. Elie Wiesel. J'ai tout faux sur toute la ligne. Enfin, l'idée, au fond, était bonne.
Comme ça, moi,
Monsieur Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, écrivain et ami du président de la République et rescapé d'Auschwitz. Et cet auditeur ajoute, rappelons que M. Jacques Attali avait déjà, dans les années 80, alors l'auditeur dit commis un plagiat, moi je dis était accusé d'un plagiat de plusieurs ouvrages, dont ceux de Jung, de... Quel est le prénom de Jung? J'ai un trou. Carl, bien sûr, Carl Jung, dans son ouvrage Bruit.
Ernst,
oui, c'est pas Carl, c'est Ernst. Qu'est-ce qui me fait dire Carl? C'est l'autre. C'est Lang qui est Carl. Hein? Enfin, peu importe. Non, c'est Ernst Jünger. Mais vous me faites dire n'importe quoi, vous. Mais n'importe quoi.
Je ne sais pas si les auditeurs vont chercher un problème.
Ça fait rien. Enfin, en tout cas, il avait été accusé d'avoir plagié un livre. Et cet auditeur termine en disant, la journaliste du Nouvel Observateur qui a révélé le dernier plagiat est Madame Elisabeth Chemla. Voilà, comme ça on sait tout. Il ajoute bonsoir à tous.
Alors il ne faut pas oublier que dans ce livre, que je ne recommande pas aux gens d'acheter parce qu'il est très très cher, il fait près de 200 francs, il est 1000 pages, il est épais comme ça, mais il faut quand même que certaines personnes l'aient pour le diffuser dans nos milieux. On apprend que les restaurants du cœur sont nés à l'Élysée et ont été fabriqués à l'Élysée. SOS Racisme est né à l'Élysée et a été fabriqué à l'Élysée. Enfin, on apprend beaucoup de choses comme ça. Je croyais qu'ils nous prenaient pour des imbéciles, mais ils nous prennent vraiment pour des crétins sur toute la ligne.
Oui, eh bien, tu vois, une dame nous dit qu'elle a fait autrefois des camps scouts dans lesquels on levait les couleurs, mais qu'elle ne s'est jamais sentie pour cela embrigadée.
Veuillez rectifier, dit un auditeur, le cardinal Ratzinger a rappelé en 1983, que les francs-maçons sont toujours excommuniés.
Et il est question que demain sur TF1, il y ait une émission sur le Mont des Alouettes.
Monsieur Delbé, Monsieur Delbé, c'est par vous qu'ils seront sauvés. Monsieur Delbé, et nos paroisses et nos curés. Monsieur Stofflet, par le sabre et le pistolet. Monsieur Stofflet, nous allons délivrer Cholet. De chemillé à vos préaux, Catelino, Catelino, nous ferons claquer nos sabots. Monsieur de Bonchamp, vous allez garder Saint-Florent. Monsieur de Bonchamp, nous sommes des soldats paysans. Monsieur Charette, avec nos fourches et nos serpettes. Monsieur Charette, venez marcher à notre tête. Monsieur Henri, nous défendons nos métairies. Monsieur Henri, avec nos cœurs et nos fusils. Monsieur, bien sûr, au nom de Dieu, on vous le jure. Monsieur, bien sûr, nous vous suivrons jusqu'à Saumur. Sur la verrine, la cocardière n'est pas un nid. Sur la verrine, c'est toute la Vendée qui rugit.